Bonjour Kananga. Applaudissez très très fort. Très bien, on y va. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Okapi Service en direct de Kananga. Sous vos applaudissements, est-ce qu'on peut faire le maximum de bruit? Est-ce que vous êtes content d'être là? Applaudissez très très fort. Merci d'être là. Nous sommes à l'espace La Reconnaissance sur Dibanda, ici à Kananga, pour cette deuxième production d'Okapi Service qui va porter essentiellement sur l'électrification de la ville, comment augmenter le taux de desserte en énergie électrique dans la ville ainsi que dans la province. Et dans la seconde partie de ce programme, nous allons parler de la production agricole, comment augmenter la production de maïs, parce qu'actuellement il y a une pénurie, il y a crise dans la ville. Merci d'être là. Alors nous avons déjà les premiers intervenants. Voilà, je vous demande de les applaudir très très fort. Monsieur Alexis Moulomba. Il est le coordonnateur de l'Agence nationale électrification rurale en Ser, Grand Kassai. Et nous avons également l'ingénieur Louabeya Mukendi Pierre. Merci de l'applaudir aussi, très très fort. Merci d'être là. Il est le président et directeur général de la firme PLM Ingénierie. Avec nos deux invités, ainsi que vous, vous qui êtes là, nous allons échanger sur ce thème, comment augmenter la desserte en énergie électrique dans la province du Kassai. Central. Merci à toute l'équipe de production, Clément Chimanga, Jean-Claude Siala, Tati Mapoukou, François Kadima, et à vous tous qui êtes là, merci d'être venus, et merci à vous tous qui nous écoutez sur www.radiookapi.net. Il y a également les auditeurs qui nous, bien sûr pas les auditeurs, mais les internautes, qui nous suivent en direct sur les différentes plateformes digitales de Radio Okapi, grâce à notre confrère Clément Chimanga. Excellente condition d'écoute du magazine Okapi Service en direct de Kananga. Bien, nous allons commencer avec notre premier thème du jour. Qu'est-ce qu'il faut pour augmenter le taux de desserte en énergie électrique dans la province du Kassai central? Eh bien, Kananga est l'une des villes de la RDC qui a un faible taux d'accès à l'énergie électrique. Les ménages du chef-lieu du Kassai recourent le plus souvent aux groupes, aux panneaux. La SNEL donne le courant électrique, mais c'est pas pendant toute la journée, c'est juste pour quelques heures. Alors l'espoir de la population repose sur le projet de construction de la centrale hydroélectrique des 10 MW dans les chutes Mbombo sur la rivière Lulua dans le Kassai central, dont les travaux ont été lancés l'année dernière. Alors, comment évoluent ces travaux? Parce que les chutes Mbombo, c'est l'alternative aux chutes Katendeki. C'est tellement une longue histoire. Ça a tellement traîné. Alors, les gens comptent beaucoup plus sur le site Mbombo, les barrages Mbombo. Alors, comment évoluent les travaux qui ont été lancés l'année dernière? Où est-ce qu'on en est? Quand est-ce qu'on aura du courant, effectivement, dans la ville de Kananga et dans la province? Eh bien, on en parle avec nos invités. Je vais donner la parole d'abord à l'ingénieur Louabeya. Merci de prendre le micro. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, je rappelle que vous êtes président et directeur général de la firme PLM Ingénierie. Nous parlons aujourd'hui de la chute des travaux de construction, voilà, de la centrale Mbombo. Comment, où en sommes-nous aujourd'hui? Comment évoluent les travaux?
Les travaux évoluent bien. Je parle beaucoup plus au niveau des études. Nous avons été mandatés pour mener des études pour la construction de la centrale hydroélectrique Mbombo. Et actuellement, on est quasiment à plus de 52% de de travaux réalisés. Je pourrais vous en dire en détail là, mais on est à 52%.
52% par rapport aux les études. Vous êtes encore au niveau des études.
Oui, c'est au niveau des études. Et moi, mon mandat, c'est vraiment la conception. C'est vraiment de réaliser les études et de déposer les documents d'appel d'offres.
D'accord. Donc, les travaux sont suffisamment avancés. Mais quand est-ce que maintenant... là, c'est au niveau des études. Les études sont à plus de 52%. Et quand est-ce que les travaux seront effectivement lancés?
Les travaux, c'est un processus. Hein. À partir du moment où les études sont finies et tous les documents d'appel d'offres sont terminés, donc c'est qui est de du contrat que j'ai reçu, aussitôt que c'est déposé, à ce moment-là, le maître d'ouvrage délégué, il va entamer le processus d'engager un entrepreneur, de choisir un entrepreneur, et c'est à ce moment-là que l'entrepreneur pourra, aussitôt qu'il est choisi, c'est à ce moment-là qu'il pourra commencer les travaux.
Mais il y a également les travaux de la route qui devaient mener jusqu'au barrage qui était en cours. Est-ce que les travaux sont déjà finis ou vous avez une idée là-dessus?
Non, à ma connaissance, c'est pas de mon ressort, mais oui. Un peu comme tout le monde, j'ai été à la signature du contrat. J'ai vu qu'il y avait un entrepreneur qui était choisi pour réaliser ces travaux-là. Mm-hmm. Mais ce n'est pas mon contrat, je ne connais pas administrativement ce qui se passe dans ce dossier-là.
D'accord. Ouais. Alors, quelle sera la capacité, combien de mégawatts le Mbombo pourra produire?
Présentement, nous sommes encore dans le processus des études. Lorsqu'on nous a donné le mandat, on nous parlait d'une centrale de 10 mégawatts. Alors, quand nous avons commencé les analyses sur le terrain, le récolte de données sur le terrain, nous avons trouvé que le site avait un potentiel, retenez bien le mot, un potentiel de produire jusqu'à 40-45 mégawatts. Alors, durant les études, il y a plusieurs analyses qui ont été entreprises parce que produire 10 mégawatts, il y a des impacts qui vont avec. Et produire 45 mégawatts, il y a aussi des impacts qui vont avec. Ces impacts peuvent être financiers, mais elles peuvent aussi être environnementales. Mmh. Entre les deux, nous, présentement, on est plus alignés. La solution qui est présentement sur la table sur laquelle on est beaucoup plus en train d'avancer, on vise un 20 mégawatts, un 20-21 mégawatts sur le chip.
D'accord, avec un financement de ces 35-40 millions pour construire le barrage?
Non, en tout cas, le chiffre, moi je pourrais pas le sortir, le chiffre au fait, comment se passe le chiffre, le coût du projet? Après avoir réalisé les études, on fait ce qu'on appelle le plan, ok? En faisant le plan, on est capable de quantifier. On est capable d'avoir la grosseur des colonnes, la grosseur des fondations. Et là, on est capable de mettre un prix sur des quantités. Alors, avant d'avoir fait cet exercice-là, on ne peut que spéculer sur les coûts. Hein, un ordre de grandeur. Mais oui. Ça, on ne peut pas dire que la centrale va coûter 35 ou 45. On peut avoir un ordre de grandeur, mais le coût n'est pas encore... On n'est pas encore arrivé au niveau d'établir un coût sur la centrale.
Bien, merci ingénieur Loabeya. Je vais donner la parole à monsieur Alexis Moulomba, qui est le coordonnateur de l'Agence nationale de l'électrification rurale, ANSER. Monsieur Alexis, bonjour et bienvenue.
Bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs.
Bien, parlez-nous de ce que ANSER fait pour augmenter la desserte en énergie électrique dans la province.
Oui, merci de la question. Donc j'allais abonder dans ce sens-là si je devais intervenir. Je commencerai par dire merci au public qui est là pour votre participation. Je pense que c'est un exercice important pour qu'on puisse dialoguer et échanger sur ce qui est de la mission de l'ANSER, parce que souvent elle est ignorée par beaucoup. J'évoquerai ici les décrets-lois qui créent ANSER depuis 2016. Nous pouvons trouver ça dans les journaux officiels de la République. ANSER a été créé pour une mission clé, celle d'améliorer l'accès à l'électricité dans les milieux rural et périurbain de notre pays. Et elle a été répartie en 6 pôles, dont le pôle Grand Kasaï, que j'ai l'honneur de diriger, qui a ses bureaux ici à Kananga. À ce titre-là, après sa création, il n'y a pas eu de premier mandataire. Les premiers mandataires ont été nommés par le président Félix en 2020. Donc c'est une agence de l'État, ce n'est pas une ONGD comme certains le pensent, c'est une agence de l'État qui ressort directement du ministère de l'Énergie et de la Présidence de la République. C'est comme ça que nous avons eu mandat en 2020 de pouvoir d'abord établir les plans locaux d'électrification qui n'existaient pas dans notre pays. Et c'est sur base de ces plans locaux d'électrification que nous avons mis en place et que nous avons appelé la stratégie d'électrification par province et par territoire. Je parlerai principalement de la province de Kasaï Central pour ce qui nous concerne, mais sinon, dans les grands Kasaï, nous avons lancé depuis 2022 un grand nombre de projets. Le portefeuille total pour le pays, c'était de 42 projets. Et dans ces 42 projets, les grands Kasaï sort gagnant avec presque la moitié de projets, qui est de 21 projets pour tous les grands Kasaï. Ces projets-là nécessitaient une enveloppe financière d'environ 70 millions de dollars. Et au courant de l'année passée, avec l'ancien ministre des Finances, nous n'avons reçu que deux dotations. La première était de 10 millions et la deuxième de 13 millions. Vous vous rendez compte quel est le pourcentage de 23 millions dans les 70 millions dont on avait besoin pour réaliser tous ces projets. C'est ce qui a fait qu'au niveau de l'avancement des travaux, c'est vraiment un petit exposé qui est important à retenir avant que j'entre dans le vif du sujet. Nous avons lancé tous ces travaux-là. Aujourd'hui, je peux vous dire que les 21 projets de l'espace Grand Kasaï sont en exécution, mais ils ont connu un arrêt au courant du mois de novembre avec le processus électoral et depuis janvier avec le gouvernement qui était sortant, à qui on avait donné des restrictions de dépenses. Je peux vous confirmer aujourd'hui que les 21 projets qui concernent l'espace Grand Kasaï sont en train d'être repris parce que nous avons eu une autorisation spéciale du gouvernement nous donnant accès aux finances pour relancer ces travaux. Maintenant, pour électrifier notre province, voilà, dans les stratégies d'électrification que nous avons faites pour la province de Kasaï Central, nous avons voulu vaquer au plus pressé en apportant des réponses immédiates, c'est-à-dire faire un état des lieux de nos territoires. Je le confirme, la province de Kasaï Central a un taux très très bas d'électrification. Nous sommes à moins d'1%, à peine 0,9%, et nous devons faire des efforts dans les missions qui nous sont attribuées. Vous pouvez lire ça dans notre décret-loi. Nous avons pour mission d'apporter de l'électrification, de mobiliser les financements et d'accompagner même les particuliers qui viennent dans les secteurs d'électrification.
D'accord. Alors, quand est-ce que Kananga sera électrifié grâce au projet Anser?
Oui, grâce au projet Anser, dans notre stratégie, il y avait d'abord la mise en place de certaines microcentrales solaires qui nous avons initiées, et nous étions parmi ceux qui ont initié les projets dont vous avez parlé, les projets Mbombo. Avant d'y arriver, je parlerai quand même des mini-centrales qui sont en cours d'exécution. Pour ceux qui fréquentent la ville de Chimbulu, ils peuvent confirmer que sur place, nous avons deux mini-centrales qui font un total de 150 kW avec 100 lampadaires publics qui sont déjà installés. Pour ceux qui fréquentent réellement la ville de Kananga, ils doivent être au courant que nous avons fini une centrale de 200 kW construite et installée à l'aéroport qui desservira l'aéroport de Kananga 24 heures sur 24 et une centaine de ménages. Mais c'est un travail qu'on fait à échelon parce que on va accroître cette centrale-là, la puissance de cette centrale, l'augmenter jusqu'à 1 mégawatt pour pouvoir augmenter le nombre de ménages qui pourront bénéficier de l'électricité fournie par cette centrale. Et nous étions, nous, dans notre réponse à apporter à cette population, à l'initiative de ce qu'on a appelé le projet Mbombo. Je me rappelle bien de certains parmi nous qui étaient présents lors d'une émission tenue ici il y a exactement 2 ans.
Oui.
Nous avons proposé comme alternative aux réponses liées à l'électrification de notre province les projets d'hydroélectrique de Mbombo. C'est nous qui étions à la base de cette initiative-là. Et prenant les taureaux par les cornes, comme on dit, nous avions réuni à l'époque la synthèse des études qui existaient, qui était déjà faite. Sur base de cette synthèse, nous avons reformulé des orientations avec une estimation du coût et de la puissance qui pouvait ressortir du projet. Ces estimations nous permettaient, d'une part, d'impliquer les autorités politico-administratives dans la logique de ces projets.
Cela veut dire qu'au niveau d'Anser, les études ont été déjà réalisées.
Non, on n'appelle pas ça études. Quand on parle de synthèse des études, ce sont des estimations qui nous donnent une orientation sur, parce que pour lancer un projet, il faut être certain d'une part des financements et d'autre part de la volonté politique, parce que la décision pour un projet d'une telle grande envergure, la décision ne peut être que politique, parce qu'il faut que le gouvernement accepte de lancer ces projets-là. Alors, pour inciter la volonté politique à entrer dans un projet, il faut déjà savoir, d'une part, à quelle hauteur financière on peut arriver, quelle est la puissance que peut engendrer ces barrages et d'où pourront venir ces financements. Justement, pour réunir ces éléments et pouvoir inciter nos autorités politiques à s'investir dans les projets, d'accord, nous avons fait ce que nous avions appelé la synthèse des études. Et cette synthèse des études nous a amené effectivement à impliquer les autorités à accepter ces projets-là. Et nous, j'insiste, nous, en tant qu'ANSER, nous ne devons même pas attendre d'une entité quelconque une autorisation pour mener un tel projet. Ça relève de nos prérogatives. En tant que organe de l'État qui a reçu mission d'électrifier, et vous devez savoir aussi, par exemple, parfois les gens disent que quand on se trouve dans le milieu urbain, mais moi je vous informe que la quasi-totalité des communes de Kananga sont 6 pas périurbaines, mais il y en a même qui sont rurales. Parce que si on va déjà à Lukonga, nous sommes déjà dans une zone qui est pratiquement rurale. Donc ça relève totalement de nos prérogatives de mener un tel projet.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. On va recueillir les questions des auditeurs. On va prendre les questions. Merci de vous présenter le nom et puis... vous posez directement votre question.
Oui, c'est Jean-Calvin Luamba. Je suis militant de la Lucha et puis je suis de la dynamique Chit Mbombo. Ma question s'adresse à l'ingénieur Luabeya. Il y a longtemps, d'ici là, au mois d'août, on va attendre presque une année depuis que la première paire a été lancée au niveau de Chit Mbombo. Il y avait les études avec une entreprise qui a construit Toubi-Toubidji. Cette fois-là, quand Beseko est venu, ils nous ont fait croire que dans peu de temps, on va commencer les travaux. Et maintenant, là, il y a une autre entreprise qui arrive, je ne sais pas moi les noms. Je demande à l'ingénieur Luabeya de nous dire, il est venu ici en tourisme où il est venu travailler parce que les études ont été déjà menées. Merci.
Bien, merci pour la question. Le suivant.
Merci beaucoup. Je salue les auditeurs de Radio Okapi. Moi, c'est M. Jean Saka, le président provincial de la FEC Kasaï Central. Alors, je voulais poser la question
à l'ingénieur Robert.
Mais moi, je ne veux pas comprendre que lui, en tant qu'ingénieur, il dit même qu'ils sont venus lancer les travaux des études. Vous voyez comment les gens sont en train de se moquer des autres. Comment on peut venir lancer? Parce qu'ils ont vu que les élections pointaient à l'horizon. Ils se sont attendus avec des policiers à Kinshasa. Ils sont venus ici pour lancer les travaux. Moi, je pense que quand on lance les travaux, ça signifie qu'à ce moment-là, tout est déjà fin prêt. La fois passée, on nous a dit que notre ingénieur ici venait du Canada, mais je pense qu'il manque le respect pour les Congolais. Parce qu'il ne peut pas dire ici qu'il est venu, lui, en tant qu'ingénieur, lancer les travaux des études. On ne vient pas lancer les travaux des études. Les études se font dans les bureaux. Se font dans les bureaux et après, on vient lancer les travaux. Et quand on vient les lancer les travaux, là, on commence à travailler, on voit. Donc, ici, nous sommes en train de comprendre que les gens, ils sont dans beaucoup de choses de magouille. Ils sont en train de chercher des marchés pour que l'argent puisse sortir et puis ils vont se partager l'argent. Ils vont finir l'affaire. Ils vont rentrer dans les affaires de la diaspora. Mais cette fois-ci, nous allons les suivre jusque là-bas. Ils vont parler avec notre agent.
Merci, monsieur Jean.
Non, je n'ai pas fini. Je salue aussi notre ami de Anser, monsieur Alexis, que je connais très bien, que je respecte. Mais monsieur Alexis, un jour, c'était l'année 2023, à la fin de l'année, parce que j'ai participé à beaucoup de réunions qu'ils ont organisées chez Anser là-bas. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ils nous ont invités là-bas pour dire que il y a nos autorités qui sont venues de Kinshasa pour venir ici à Kananga et vérifier les besoins du courant à Kananga. Dans cette réunion, M. Alexis était là. Moi, j'ai dit non. Ça, c'est se moquer des gens. Comment vous, on a créé l'agent et on vous envoie ici comme point focal. Et vous, vous faites les budgets pour que les gens se déplacent à Kinshasa, venir à Kananga, alors que vous êtes là, vous connaissez que vous êtes là parce qu'à Kananga, il n'y a pas de courant. Aujourd'hui, je suis surpris qu'ils me disent que ici à Kananga, il y a le courant, la consommation représente 1%. Nous avons besoin de 9%, mais dans l'entretemps, et ils ont amené des délégations ici à Kananga pour venir voir si à Kananga on a besoin du courant. C'est ce que moi j'appelle moquerie. Ils sont en train de se moquer des gens. Depuis l'avènement du président Félix, il a dit, depuis 2020, Anser existe ici à Kananga. Mais comment Anser doit exister à Kananga pour nous donner du courant? Mais ça fait déjà presque 5 ans que nous ne voyons même pas une ampoule.
Moi, je serai un peu trop bref.
D'accord.
Ma question s'intéresse au coordonnateur de Anser, M. Alexis Moulomba. Moi, c'est M. Alex Mputu. Autrefois, nous avons constitué un groupe de jeunes pour aller chez Anser afin de vérifier pourquoi le projet Mwinda des chefs de l'État n'est pas exécuté au Kasa Central. Et monsieur le coordonnateur de Anser, que je respecte bien, il nous a dit pour le travaux de Chit Katende, ça pourra prendre pratiquement 6 ans à 5 ans. Mais nous avons cherché un projet d'urgence qui est le barrage Chit Mbom. Et il nous a confirmé que on avait déjà déboursé un montant pour mener les études. Et avec précision, il nous avait dit que ce travail devrait prendre pratiquement 15 mois. 15 mois, il nous a parlé de 15 mois, 8 mois pour la construction et le 7 mois pour le dispatch de courant. Et c'était un projet qui devrait être fait avant la fin du mandat.
Du premier mandat du
chef de l'État.
Oui.
C'est pourquoi ma question est de savoir, jusqu'à ces niveaux, ces travaux-là n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qui bloque le démarrage de ces travaux? Et de deux, l'argent qui a été déboursé pour le décollage de ces travaux, qu'est-ce qu'on en a fait?
Mais moi, j'avais une inquiétude aussi profonde, parce que là, j'étais en train de me dire que Anser, Beseco, ceci, cela, ces deux entreprises mises peut-être en place par le chef de l'État pour remercier ses collègues ou ses camarades de la diaspora.
Pourquoi vous dites
parce
ça?
Que, je dois dire ça parce que je me rends compte que depuis que ces services, ces entreprises sont créées, nous ne voyons rien de pratique. Beaucoup de discours. Tout récemment, à Kananga, le professeur Mbata, que je respecte beaucoup, a effectué toute une mission officielle. Et c'était la deuxième mission d'ailleurs. Ils ont mobilisé le budget de l'État, ils ont mobilisé même un jet privé. Ils sont venus ici pour inspecter les travaux, je sais moi, de Chit Mbombo et consorts. Mais eux-mêmes descendent. J'ai beaucoup de respect pour ce professeur. C'est un grand professeur d'université et un avocat de taille. Mais en ce qui concerne l'amour de sa province, je ne suis pas en train de lire ça en lui. Parce que ils font des courses ici pour voir comment est-ce que les travaux évoluent, pendant qu'ils sont consciencieux que les travaux, il n'y a aucun travail qui est entamé ici, il n'y a aucun projet qui marche ici au Kasaï Central, mais ils se contentent quand même de mobiliser des dettes privées, ils viennent, ils ont les frais d'émission, ils descendent, ils font des évaluations, ils rentrent, et qu'est-ce qu'ils donnent au chef de l'État comme rapport? Est-ce que le chef de l'État, je sais, tout récemment, quand le professeur Mbata et le DG de Beseco étaient ici, ils sont descendus même jusqu'à Chit Mbombo. Mais ils ont nous ont fait croire qu'il y a déjà du matériel, il y a de ceci, pendant qu'il y avait juste un conteneur qui n'avait même pas un seul fil dedans. Mais ces vidéos ont circulé à travers la toile. Le président de la République n'a-t-il pas vu ces vidéos-là? Si le représentant de Anser, le représentant de Beseco connaissent des difficultés, peut-être les difficultés qui viennent au niveau de Kinshasa, mais qu'ils les disent ouvertement à nous, nous allons prendre notre destin en main. Parce qu'ils ne doivent pas quand même nous faire endormir comme si nous étions des bébés. Qu'est-ce que nous avons fait au président de la République? Monsieur Jody, permettez-moi de parler parce que je ne sais pas si j'aurai une autre occasion de m'exprimer. C'est ça peut-être l'occasion par laquelle je dois saisir pour exprimer mon inquiétude, moi, en tant que Kassayenne. Monsieur Jody, ne me coupez pas la parole, je vous en supplie. Bon, alors, je disais, le Kassai central a élu le président Félix Tshisekedi à 99%, plus que même sa province natale, le Kassai oriental, qu'il a élu à 85%. Mais pourquoi il nous doit nous remercier à monnaie des singes? Qu'est-ce que nous lui avons fait? Pourquoi il doit se moquer
Merci,
de nous jusqu'à
madame.
Ce niveau?
D'accord.
Nous sommes aussi des humains, non?
Merci, madame. Les invités vont répondre à vos préoccupations. Nous parlons de l'électrification de la province du Kassai central. Voilà comment évoluent les travaux du site.
Je m'appelle Modeste Eric Badibake. Je suis un étudiant en développement et rural ici au Kassai. Je suis un Kassaïen d'origine.
Posez des questions, mais n'attaquez pas.
C'est une question.
Hein?
Bon,
merci
avant
de ne pas attaquer.
Merci, mais avant de poser la question, j'ai quand même une inquiétude à présenter par rapport à la situation telle que nous sommes en train de vivre dans la province. Anser, c'est un organisme d'électricité. Et Anser n'a pas existé aujourd'hui. Anser, c'est un organisme qui a existé il y a longtemps. Et concrètement, qu'est-ce que monsieur le gouverneur de l'Anser peut nous dire en pratique de ce qu'il a déjà fait en tant que point focal de l'Anser, nommé par le président de la République? Et en quoi il peut nous donner, pragmatiquement, en tant que originaire du Kassai, s'il n'était pas coordinateur de l'Anser, s'il était aussi Kassaïen comme nous, qu'est-ce qu'il pouvait aussi
mais
dire?
Vous avez dit que vous n'allez pas attaquer personnellement,
donc,
mais poser
des
questions.
J'ai déjà posé une question. Ouais. Qu'est-ce que le monsieur le coordinateur de l'Anser peut nous donner concrètement comme projet réalisé?
Voilà.
Bon, avant que monsieur Tshisekedi soit au pouvoir ou pendant que monsieur Tshisekedi soit au pouvoir du mandat passé.
D'accord.
Avec le mandat en cours.
D'accord. Merci beaucoup. On va prendre la dernière question de la première série. On a déjà eu combien de questions, Tati? On commence par avec l'ingénieur Loabea.
Moi, je représente une compagnie qui s'appelle PLM. Je suis ingénieur et je représente cette compagnie-là. La compagnie a eu mandat de réaliser des études. Il y a des autorités qui mènent un projet. Autant quand ils décident de faire quelque chose, une conférence de presse, une descente ou quelque chose, nous accompagnons ces autorités-là. Alors, les questions de qui décide pour aller sur le site ne reviennent pas à moi. Par contre, moi, je peux vous expliquer où je suis rendu avec le mandat qui m'a été attribué. Vous m'aviez sûrement vu à la descente sur le terrain avec toute l'équipe politique, mais c'est parce que j'ai un mandat et j'accompagne ces autorités-là. Mon mandat, c'est de réaliser les études. Pendant que vous m'aviez vu sur les, avec cette équipe descendre sur le terrain, moi j'étais déjà en train de réaliser les études. Donc je ne lançais pas avec eux les études, moi j'ai réalisé déjà des études, autant en ce moment je suis sur le terrain en train de continuer les études. J'aimerais mieux que vous fassiez au moins des enquêtes pour voir quel est le travail que la firme PLM est en train de mener depuis jusqu'à maintenant, avant d'associer à quoi que ce soit. C'était plus dans ce sens-là. Alors, il faut vraiment dissocier la direction du projet, la gestion du projet et la firme qui est engagée pour faire les études. C'est deux choses complètement différentes. S'il y a quelque chose que je peux vous dire aujourd'hui, vous allez être surpris. Les études, on les fait avec nos propres moyens. On n'est pas encore payé.
Est-ce qu'on peut avoir des estimations, la période?
Je ne peux pas parce qu'il faut mettre des moyens.
L'engouement que je vois dans l'Assemblée prouve à suffisance à quel point le problème d'électrification est porté à cœur de nos populations. Et d'emblée, je réponds à la première question. Je crois qu'elle m'a été posée, c'était une observation, c'était même pas une question par M. Jean Saka. Quand j'ai parlé des taux d'accès à l'électrification, ça ce sont des données qui existent Ce sont des statistiques. 1%, même moins d'1%. Ce sont des données qui existent. Ça, c'est le taux d'accès. Nous avons aujourd'hui la centrale thermique de la SNEL qui produit à peine 1 mégawatt, à peine 1 mégawatt ou 1 mégawatt et demi, qu'on n'arrive même pas à desservir en toute la journée, encore moins dans toute la ville de Kananga. Et pourtant, si on doit évaluer les besoins aujourd'hui, par exemple, pour la ville, on peut facilement atteindre 17 à 18 mégawatts de besoins pour la ville de Kananga. Comparé à ces chiffres-là, vous êtes d'accord avec moi qu'on est vraiment en deçà. Donc, j'ai parlé des taux d'accès. Par contre, quand on évalue le besoin, dire qu'on a besoin de l'énergie, ça ne suffit pas. Il faut savoir cette population qui a besoin de l'énergie dispose de quels appareils électroménagers, dispose de quels besoins réels, dispose de quelles activités qui pourra consommer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle les enquêtes des collectes de données. Donc, au-delà, je suis en train de répondre à la première préoccupation de M. Jean Sara, s'il vous plaît. Prenez votre patience, je finirai. Au-delà de ce manque d'accès à l'électricité, il faut évaluer les besoins. Voilà pourquoi il y a une équipe qui est venue pour faire ces enquêtes-là de proximité et établir en chiffres clairs quels sont les besoins en électricité de la population. En serre et à l'initiative de ces projets, nous avions déjà une idée de ce que nous devons faire pour la mobilisation de fonds. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'était l'une des formations, l'une des primaires que j'allais vous donner. En initiant ces projets, nous avions eu trois plans. Il y a un plan A, plan B, plan C. Nous avons été à la base de l'initiative de ce projet. BCECO est entré dans la danse comment? C'est là où vous devez suffisamment ouvrir vos oreilles parce que c'est une question qui se pose et à laquelle je vais répondre une fois pour toutes. BCECO est venu nous rejoindre dans la mission qui nous est révolue tout simplement parce que c'était le canal par lequel on était censé recevoir un financement. Et nous avons eu un protocole d'accord avec BCECO. Et au moment où je vous parle, il y a eu beaucoup de malentendus au cours de ces protocoles d'accord et les malentendus que nous sommes dans le droit d'harmoniser. Raison pour laquelle toutes les dernières descentes que vous avez vues avec BCECO dans la ville, vous n'avez pas vu la présence d'Anser. Donc aujourd'hui, ne me posez pas une question autour du contrat de la route, de quoi que ce soit, je ne saurais pas vous répondre parce que nous n'avons pas ces informations-là. Et d'ailleurs, une autre primaire, nous ne sommes même pas certains de la garantie du financement du partenaire que BCECO va amener. Donc nous sommes en train d'harmoniser les points de vue concernant ces protocoles d'accord.
C'est quel partenaire?
Mais je vous ai dit au départ, nous avons trois plans. Le BCECO, c'était le plan A. Et nous, en préparant ces projets, pour remplir noblement notre mission, on ne s'est pas arrêté. Anser a une feuille de route concernant le projet Mbombo. Anser a une feuille de route concernant le projet Mbombo. Autant qu'on a eu des contacts avec BCECO, nous en avons eu avec tous les autres partenaires. Et nous sommes scrupuleusement en train de suivre cette feuille de route. Donc, je suis impliqué complètement dans l'amélioration des conditions de cette population. Il y avait un protocole d'accord signé entre Anser et BCECO, qui sont des structures de l'État. Dans les protocoles d'accord, les tâches étaient clairement établies. Il n'y a même pas de conflit d'intérêts. Il y avait plutôt incompréhension dans les attributions de l'une ou l'autre structure. Parce que BCECO nous a amené un partenaire financier. C'est comme ça qu'il entre. Je vous recommande de lire clairement, et je peux même donner ça à la disposition de ceux qui sont là, de lire clairement ces décrets-loi qui créent Anser, et vous verrez dedans les missions qui sont attribuées à Anser. Anser n'a pas besoin d'attendre l'autorisation de BCECO pour construire le barrage de Mbombo, n'a pas besoin d'attendre l'autorisation d'un gouverneur pour construire ces centrales-là. C'est dans nos missions et dans nos prérogatives.
Merci beaucoup, monsieur.
Bonjour.
Jody. Bonjour, merci. Je suis Poncien Divin Misenga. Je coordonne un mouvement citoyen dénommé Génération Chit Katende. Donc, notre plaidoyer...
Bon, Chit Katende, on n'en parle même plus
oui,
parce que...
Oui, on parle des problèmes de l'électrification du Grand Kassai ou du Kassai Central. On ne peut pas exclure un mouvement ou un projet pour un autre.
D'accord.
Je voulais parler des problèmes de l'électrification, mais je représente un mouvement. Donc, notre frère Loibéa, qui est ingénieur, ce n'est pas la cible de nos attaques. Il est un inconnu dans cette situation. Il est recruté par le maître d'ouvrage de ce projet. Je pense que toute cette frustration citoyenne que nous représentons devait avoir comme cible BCECO qui est maître d'ouvrage en dehors du gouvernement congolais. Ça, je voulais éclairer les choses parce qu'il donne ce qu'il fait. Il est recruté pour ça.
Et vous avez dit qu'il a dit tout à l'heure qu'il utilise ses propres moyens pour faire des
études. Il n'est pas notre cible. Moi, je pense qu'il n'est pas notre cible. Donc, on parle à quelqu'un qui ne peut jamais répondre à
ces problèmes. C'est Beseko qui devait...
C'est Beseko. Ma petite question, je vais reformuler pour M. Mabimou Lumba, qui va nous suivre à partir de Kinshasa, parce que cette radio est suivie de partout. Il peut saisir la radio Capi pour répondre, parce que chacun a les droits de réponse lorsqu'il est attaqué ou il est posé la question. Ça, je vous donne un devoir de le faire dès que vous êtes à Kinshasa. Mais je vais poser du moins ma question, que lui va répondre, pas celui qui est présent, parce qu'il n'est pas la cible de ma question. Je voulais parler pour Anser, en tant que mouvement qui milite pour l'électrification du Grand Kassai ici. Nous avons fait nos plaidoyers à Kinshasa et ici même à Lubumbashi pour la question de l'électrification. La question est que Anser nous parle de 1%, de moins de 1%. C'est depuis quand qu'ils ont constaté ces pourcentages? Maintenant, ils évaluent à combien de pourcentages les taux d'accès à l'électricité? Parce qu'ils ont dit qu'ils accompagnent même les privés. Est-ce qu'ils savent ce que nous subissons, nous populations, avec la SNEL, qui produit aussi l'énergie? Est-ce qu'ils savent quand même ce que nous avons comme problème?
Ici, la SNEL utilise les groupes.
Oui, ils ont des groupes. Ils ont des groupes. Ici, mais est-ce chaque jour ici, quel est l'accompagnement des Anser par rapport à ce que la SNEL fait? L'éclairage public aussi, n'en parlons pas. Moi, je voulais demander à Anser de ne plus se pencher sur la question de Chitembombo, parce que ce n'est pas une priorité des Anser. En venant ici, Anser n'avait pas de priorité pour nous donner Chitembombo. Mais ils étaient venus pour donner le courant via le panneau solaire. Et c'était pour la ville de Kananga une partie, mais au niveau des territoires, des milieux périphériques. Et ils devaient faire ce travail-là
et les panneaux avec sont tout déjà, un agenda. Les panneaux sont déjà installés du côté de l'aéroport. Maintenant,
Est-ce que nous pouvons parler à ceux qui sont là, qui attendent des courants, qu'il y a des panneaux installés quelque part? Où on doit donner le courant à ces gens. Nous n'attendons pas les panneaux, nous attendons le courant. Mais comme on nous a appris, moi j'ai appris, je voulais insister sur ce point. Chaque projet, j'insiste, ça c'est ce que nous avons appris, nous sommes tous des cadres. Chaque projet est taillé dans le temps et dans l'espace. Quand un serre vient avec un projet, c'est taillé dans le temps et dans l'espace. Maintenant quand vous venez avec un projet qui devait prendre une année, et que vous faites avec ce projet 3 ans, et vous avez le courage d'expliquer, à un certain moment, on a un démon, ou soit le démon est avec nous.
Quelques secondes,
je voulais rapidement demander, ma question c'était au bureau d'études de Beseko,
ouais.
Que je voulais que vous transmettez, ils vont suivre cette question. On parle de 18 mois. Il y a des études, parce qu'on s'est
radicé. 18 mois pour les travaux de
Mbombo. Pour les travaux de Chitembombo.
Oui.
Comment on peut parler de 18 mois? C'est des gens, vous voyez qu'elle a duré, sans avoir les études de ces projets. C'est une question. On compte 18 mois à partir de quel jour? Comme ça, nous prendrons d'accord notre calendrier.
Merci
pour commencer
beaucoup.
À compter.
On va écouter Jean-Albert Mukoma de la dynamique Chitembombo. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Vous êtes ingénieur, je vous vois en chapeau.
Oui,
là, voilà.
Je suis technicien.
D'accord.
Ça dit tout. Les mots qu'on utilise pour expliquer tout ça, moi je comprends facilement par rapport même aux autres. C'est-à-dire, si on veut nous mentir, moi j'essaie d'évaluer que c'est du mensonge. Je mets en entre parenthèses, je dis merci à Jody, je dis merci à notre cabine technique, aux invités, aussi ceux-là qui nous suivent, qui sont venus. Vraiment, nous vous disons aussi merci. Je commence par dire ceci. Quel péché que Kassai Central a fait à notre président Félix Tshisekedi pour que nous méritons ceci?
Vous rejoignez madame qui a parlé tout à l'heure.
Et s'il s'agit d'un péché que nous avons commis auprès de notre président Tshisekedi, qu'il nous dise, nous pouvons le demander pardon, afin de revenir voir le projet de Kassai Central. Quel péché? Ça nous fait mal. Selon les sujets que vous avez soulevés, vous avez dit le sujet s'agit
augmenter
de l'augmentation.
Oui.
Mais ici à Kananga, on augmente quand il y a déjà un débit, quand il y a déjà quelque chose. Mais ici à Kananga, c'est vide.
Non, mais
on ne peut pas compter la SNEL. On ne peut pas compter la SNEL parce que le groupe de la SNEL peut être alimenté quand le directeur veut avoir le courant chez lui dans sa maison. Mais ce n'est pas parce qu'on le coupe à tout moment, vous ne pouvez pas congeler quelque chose. On n'a rien à Kananga. Nous sommes dans l'obscurité. L'exemple que je donne, on était ici le lundi, en pleine émission, le courant a coupé. Et si le président Jean Sac n'avait pas démarré le groupe, on allait aller où? C'est pourquoi nous nous sommes, je suis Jean-Albert Mokoma, coordinateur de Dynamique Cité Mbombo.
Qu'est-ce que vous proposez? Le projet de Mbombo. Quelles sont vos propositions pour que les choses avancent?
C'est là où nous avançons.
Oui.
Le projet de Mbombo, c'est une solution palliative à Katende. Pourquoi? Parce que quand nous avons vu la durée de Katende, pour que les travaux de Katende finissent, il fallait prendre même 10 ans, même 15 ans pour que ça finisse. Maintenant, quand nous avons entendu qu'il y a un projet qui avait déjà débuté longtemps avec Bako, le Codesco, tout ça, et on a suivi que il y a aussi le projet là est là, et ça peut prendre un coût qui coûte moins de 50 millions de dollars, et le projet là a une courte durée, 18 mois par exemple, et ça pouvait nous produire 12 mégawatts selon sa cime. C'est comme ça que nous les jeunes, nous les citoyens du Kassai Central qui dorment dans l'obscurité, on avait choisi le projet de Mbombo pour mettre la pression citoyenne, pour avoir que le projet de Mbombo commence et finisse, que ça ne soit pas une aventure comme Katende.
Alors comment, c'est raison pour laquelle, en passant, les travaux de la route qui doit mener vers Mbombo,
là, je vais arriver, permettez-moi, donnez-moi le temps, laissez-moi le temps, je vais éclaircir. Maintenant, c'est raison pour laquelle nous nous sommes donné corps et âme pour les suivre de près, faire les contrôles citoyens pour que le projet de Mbombo commence et le projet de Mbombo termine. Dans le temps, on a connu la société SACEM qui est venue ici à Kanan, qui a fait tout petit en Boujmaï. Cette société était ici avec un Chinois qui était venu. Nous, la dynamique, nous étions descendus sur le site de Mbombo. Nous avons les images. Après les études de tout ça, on nous a dit que le projet de Mbombo devait prendre 36 millions de dollars. Première société, il y en a deux, devait prendre 36 millions de dollars comme coût. Et aussi, ça devait faire 18 mois pour nous produire 12 mégawattheures. Après un moment, la société était allée voir le gouverneur qui était en place, le gouverneur Diane Kabeya, l'ex-gouverneur. Maintenant, raison pour laquelle, oui, quand la société là est arrivée, il paraît que cette société là, si 36 millions de dollars, on lui avait demandé la commission pour qu'il gagne le marché 20%. Il paraîtrait qu'ils ont demandé cet argent. Et pour votre information, il paraît que cet argent-là est déjà bouffé.
Donc, si je comprends bien...
Et la
si
société SACIM, oui, la société SACIM de Mbujumaï.
Vous n'avez plus beaucoup de temps.
Première société,
oui,
il a refusé de donner 20%.
D'accord.
On l'a récupéré
le
marché.
Si je comprends bien, si les choses n'avancent pas, c'est peut-être...
Permettez-moi de parler.
Oui, vous n'avez plus beaucoup de temps. Les autres attendent. Les autres veulent poser aussi des questions. Alors, rapidement, votre question.
Maintenant, c'est la raison pour laquelle la société SACIM a refusé de donner le pourcentage.
Vous avez 30 secondes.
On nous a amené la deuxième société, maintenant que nous voyons, société aussi fantôme, Komatowa, qui est Modern Construction, qui est maintenant sur le site. C'est là où l'ingénieur Labé est venu. Comme l'ingénieur Labé qui est là, il peut être joué un innocent, parce que lui est recruté par Besseco comme cabinet de bureau d'études. C'est quelqu'un de Besseco qui devait être ici. Maintenant, cette société-là moderne qui est venue ici, ils ont placé le pierre depuis le 15 août 2023, depuis que la pierre a été placée pour commencer les travaux. Jusqu'à aujourd'hui, sur Mbombo, il n'y a rien. Au moment que nous parlons, ça nous reste 2 mois pour aller fêter l'anniversaire de cette pierre-là qui était posée par le gouverneur Diane Kabeya. Nous disons à notre président de la République que nous avons élu massivement qu'il tienne vraiment le projet de Mbombo à main.
Crispin Chilanda, je suis membre de l'ONG AGDECOV.
D'accord. Crispin, quelle est votre question?
Ma question s'adresse à l'ingénieur Loabeya. Je l'ai dit d'abord, merci, comme il est venu lancer les études ici au Kassai Central. Nous lui disons merci pour ça. Ma question est celle-ci. Il peut nous dire, pour mener une étude, on doit être sur terrain. S'il a déjà mené les études par rapport à la route qui quitte Kananga vers Chitembombo. C'est la première question, le premier volet de la question.
Non, il avait dit, lui, c'est pas la route, ça ne le concerne pas.
Oui, ça doit faire partie, monsieur Jody. Pour quitter Kananga vers la Chite, on doit utiliser la route. Il doit faire aussi les études pour ça, puisque s'il va mener les conteneurs, ne seront pas posés ici à Kananga, seront posés à la Chite Mbombo. Ils vont arriver par quelle voie? Le deuxième volet de ma question, il utilise quel moyen de transport pour arriver à Chite Mbombo? Combien de fois il a été à Chitembombo et quel est l'état de la route à Chitembombo?
Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on prend le dernier intervenant. Bonjour monsieur.
Bonjour, merci. Je m'appelle Héritier Mwamba. Je suis coordonnateur de la dynamique Kankou Papi Noël. Je voudrais...
Il y a beaucoup de dynamique ici, hein.
Oui, je voudrais signaler que la mauvaise communication risque de tuer tout un monde. Pourquoi? Parce que nous sommes confus aujourd'hui. L'ingénieur Loabea est en train de parler des études. Mais la fois passée, parce que nous étions pendant la période des campagnes électorales, les autorités étaient en train de nous dire autre chose. Ça, c'est une clarification. Deuxième question, ça c'est une, c'était une observation. La question s'adresse à Monsieur Alexis. Il est en train de parler de 42 projets qu'ils ont établis. Il nous dit ils ont déjà réalisé 21 projets. La question au CASA ici. Je voudrais savoir qu'il nous cite, parce que ici c'est une petite présentation de la province du Kasaï. Mais ceux qui sont restés à la maison, ceux qui sont partout là, peuvent aussi en savoir plus sur ces 21 projets. Merci beaucoup.
Merci pour toutes ces questions. Monsieur, on commence avec l'ingénieur Loabea et puis monsieur Alexis prendra la parole.
Oui, la question de la route, c'est une très bonne question, hein. Ça permet de clarifier les choses. Lorsqu'on a commencé les études d'un barrage, c'est ce qu'il y a de plus complexe au fait dans le domaine d'ingénierie, parce que ça ne prend pas un expert, ça prend plusieurs experts qui doivent coordonner les choses ensemble. Alors ça peut prendre beaucoup de temps. Des fois, tu sais, c'est pas des choses que tout le monde connaît, c'est plus technique. Juste pour avoir des données sur la rivière, par exemple, il faut 10 ans. Des données sur une rivière. Et en général, c'est l'État qui a comme on appelle ça des stations, des mesures. Hein. Les gouvernements doivent avoir des stations, des mesures sur des rivières. Mais ici au Congo, ça n'existe pas, ces genres de stations. Donc vous êtes obligé d'aller quand même chercher quelques données, au minimum même sur un an, faire des statistiques dessus, essayer de corréler, donc pour arriver vraiment à trouver, parce que dites-vous que faire un barrage, le barrage est alimenté par l'eau. Alors, tu ne peux pas décider de mettre un barrage si tu ne connais même pas le comportement de ta rivière. Donc, tu dois vraiment le savoir, sinon c'est comme si tu prends une auto, tu démarres, et tu ne sais même pas s'il y a du carburant dans le réservoir, ou c'est quoi le niveau du carburant qui va te rendre à quelque part. Ce que je peux vous garantir, les études ont été faites, et je les ai déposées chez la personne qui m'a engagé. Pour l'autre question concernant... la route d'accès, de quel côté? Je peux vous dire, monsieur, je connais mieux le Chitmbombo que vous. C'est pas pour me vanter, c'est comme pour dire que ça fait un an que j'ai des équipes sur place qui travaillent. On relève coin et recoin. On est rendu à 4500 hectares. Je pars de Sanganyembwe jusqu'en Congo. Je pars de l'autre côté de Mikalaï. Donc, on est là. La semaine passée, je crois le mardi ou lundi, j'ai même fait une descente parce que je venais de recevoir un bateau qui est arrivé de Paris, que je remonte avec la rivière jusqu'en Congo. Il est encore pour les deux prochaines semaines. Si vous vous rendez sur les Chitmbombo, vous allez trouver des gens avec des éco-sondaires en train de voir partout en dessous de l'eau. Donc pour vous dire qu'on est sur place, il y a quatre jeeps qui sont là. Donc on passe par la route de Tshikaji, si c'est ce que vous voulez savoir. Et on redescend jusqu'au niveau des chutes.
D'accord.
Non. C'est...
Merci, écoute, ingénieur Loabea. On a compris. On est en cours derrière le temps. Monsieur Alexis Moulomba, on va donner la parole à monsieur Alexis.
Merci.
Voilà, donc...
Oui, merci.
Suivez, s'il vous plaît. On va clôturer avec monsieur Alexis.
Merci encore une fois pour la parole. J'ai ramasserai toutes les questions en une fois, comme ça chacun trouvera la réponse à sa préoccupation. La première concernait l'argent déboursé, qu'est-ce qu'on en a fait? Je précise ici qu'il n'y a pas encore eu un décaissement concernant le projet de la construction du barrage hydroélectrique de Mbombo. Il n'y en a pas eu, ça je confirme. Je réponds à une question qui m'a été posée. Où est passé l'argent? L'argent n'a jamais été décaissé. Je le confirme.
il peut y avoir eu des initiatives, des entreprises ou de ceux qui ont sollicité. Je donne la confirmation que nous n'avons pas encore reçu un rond pour ce projet-là.
D'accord.
La deuxième préoccupation, c'était celle de savoir ce que nous avons fait concrètement. Ça me ramène à la dernière question. Je précise, hein, les 42 projets dont j'ai parlé concernent toute la République et 21 projets pour le Grand Kassai. Je les énumère, puisque vous voulez les savoir. Ambujimaï. Mais je vous ai parlé de 21 projets du Grand Kassai. Est-ce que vous suivez? Voilà.
Restez
voilà.
Dans le Kassai alors, central.
Vous avez pas. C'est pourquoi. Écoutons. Quand nous parlons, nous devons nous entendre parler.
Bon.
Je précise, s'il vous plaît.
Monsieur Alexis, on va faire ceci.
On a parlé de 41 projets, moi et de 42 projets. Moi, j'ai dit 21 projets dans le Grand Kassai. Vrai ou faux?
Oui.
Alors, si c'est 21 projets, mais écoutez, monsieur, c'est moi qui ai mes notes devant moi.
Monsieur Alexis, bon, voilà. Voilà ce qu'on veut faire. Ils veulent savoir.
Alors, je cite le
projet central. Au Kassai central.
Je parle du Kassai central. Dans les 21 projets du Grand Kassai, il y en a pour le Kassai central, je les énumère. Vous allez compter avec vos doigts.
Voilà, on va bientôt clôturer cette première partie de l'émission parce qu'on doit parler de l'agriculture.
Allez-y rapidement. Il y a actuellement une centrale finie. Je l'ai dit à l'aéroport de Kananga, de 200 kilowatts. Il y a une centrale en construction à Timbulu, de 150 kilowatts. Il y a une centrale en construction avec éclairage public à Luisa. Ce ne sont pas des projets sans réalisation, monsieur. Si vous avez des références, descendez sur le site, vous pouvez voir.
Voilà, ils peuvent aller vérifier. Je pense qu'on peut s'arrêter là.
J'ai fini. Il y avait une question importante, une intervention des patients.
Oui.
Je précise encore une fois, Anser, ce n'est pas un projet en comparaison avec Puric, par exemple. Anser, c'est une entité de l'État installée comme une organe existante permanente.
Merci
beaucoup. Nous ne sommes pas un projet pour être limité dans le temps. C'est-à-dire que tout ce que nous avons entamé, justement, tout ce, oui, les activités,
monsieur,
oui.
Monsieur
mais
Alexis.
Écoute, je suis en train de répondre.
Oui,
je suis
monsieur,
en train de
monsieur
répondre.
Monsieur Alexis,
voici. Tant qu'entité de l'État, nous sommes soumis à l'allure où l'État est géré de la même manière que toutes les autres entités. Depuis novembre, il y a eu restriction des dépenses et Anser n'attend derrière pour la gestion de l'argent, je vais le dire. Il y a même des chiffres pour les projets.
Monsieur Alexis, on a pris beaucoup de temps. On a déjà dépassé les minutes.
C'est important parce que quand on nous attribue les détournements, moi je vais expliquer.
Non, vous avez
expliqué. Le mécanisme de paiement chez Anser se fait comment?
D'accord, on a pris beaucoup de temps.
Une
on aura
fois
l'occasion.
Que les entreprises sont
Monsieur
désignées.
Alexis, on aura oui. Le temps de revenir là-dessus. On a pris beaucoup de temps. On va clôturer pour cette première partie. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Merci de le. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais on est limité par le temps. On va s'arrêter là pour cette première partie. On va parler agriculture tout à l'heure. Merci. Est-ce que vous pouvez applaudir très très fort pour vous-même? Merci pour toutes ces interventions. Nous disons merci. D'accord. Monsieur Alexis veut dire un tout dernier mot. Micro. Est-ce qu'on peut lui donner? Oui. Allez-y.
Oui. Merci beaucoup Radio Okapi. Je me rends compte qu'on se sépare sous notre fin avec la population. Je vous regarde dans les yeux. Mon bureau est connu, les lieux sont connus. Je vous fais la ferme promesse qu'avant la fin de ce mois, on va tenir un point de presse où on ne parlera uniquement que des Anser. Et vous serez présent avec vos préoccupations et je répondrai clairement sur le projet Mbombo avec les détails à la clé.
Merci.
Les coûts, les temps et la réalisation.
Merci. Monsieur Alexis Moulomba, coordonnateur de Anser, qui est l'agence nationale de l'électrification rurale. Nous disons également merci à l'ingénieur Loabea Mukendi Pierre, qui est le président et directeur général de la firme PLM Ingénierie. Voilà, on clôture ainsi la première partie. On va suivre les informations et on se retrouve juste après pour la deuxième tranche. Merci.